France Inter, le 18-20.
Il y a des fois où la société va plus loin que le législateur, où la société est prête avant le législateur. On ne saurait dire si c'est réellement le cas aujourd'hui en France sur le débat autour de l'euthanasie et du suicide assisté, mais en tout cas, au Parlement, dans la rue, chez vous, on en reparle en ce moment. L'euthanasie ou le suicide assisté, d'ailleurs, c'est pas la même chose et c'est important de mettre des mots sur des choses qui sont très compliquées. En France, on soulage, depuis les dernières lois Léonetti-Claeys, il y a ce qu'on appelle la sédation profonde et continue quand il n'y a plus d'espoir du tout. Ailleurs, il y a l'euthanasie, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg par exemple, où on met intentionnellement un terme à la vie d'un malade, à la demande de celui-ci, il en décide en pleine conscience. Le suicide assisté existe en Suisse et dans 5 États américains aussi d'ailleurs, et là vous absorbez la préparation qui vous tuera, mais là aussi entouré bien sûr de vos proches et aussi d'une équipe médicale. Mais nous, que voulons-nous? C'est quoi la fin de vie? Ça commence où? Ça se décide comment? Est-ce que c'est à nous de décider de notre fin de vie? Est-ce qu'il faut aider la mort mieux ou devancer la mort parce qu'on refuse de dépérir une fois passé un âge très avancé? Ces derniers jours, donc, un texte a été publié par 156 députés. Une pétition circule toujours et des personnalités ont signé un nouveau texte. Preuve que, peut-être, la dernière discussion législative qui a à peine 2 ans, cette discussion n'a pas été au bout. On en parle ce soir.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Christian, c'est vous le premier. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Hein.
Oui, bah écoutez, je peux déposer un témoignage. Mon épouse, quand elle avait 72 ans, a été frappée par un AVC qui l'a laissée hémiplégique et aphasique du côté droit. Sur la cicatrice de l'AVC s'est développé un foyer épileptique. Donc à ses premiers malheurs se sont ajoutées des crises d'épilepsie. Ces crises d'épilepsie donnaient lieu à la prise de médicaments qui, effectivement, diminuaient encore ses capacités, étant et si bien que c'était une femme active, très très active, et ses malheurs faisaient qu'elle ne pouvait plus se déplacer, bien sûr, ne pouvait plus agir en quoi que ce soit, pratiquement en quoi que ce soit. Elle ne pouvait plus lire, plus écrire, et parler difficilement et réfléchir de moins en moins. Tant et si bien qu'au bout de 3 ans et demi de ces malheurs qui allaient s'aggravant, elle m'a demandé de faire ce qu'il fallait pour qu'elle puisse bénéficier d'un suicide assisté. Donc avec l'accord de mes enfants et des gens qui je pouvais récupérer des avis, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai trouvé. Et une association suisse nous a accueillis et a permis à mon épouse de mettre fin à ses jours avec soulagement et une très très grande sérénité.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Christian, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pardon de vous demander de le faire assez vite, mais parce qu'il faut bien comprendre comment ça se passe. Une fois qu'on arrive en Suisse, ça se passe comment? Il faut dire aux gens que c'est pas simplement « bonjour, je voudrais mourir » et « au revoir ». Tout ça est extrêmement encadré et tout ça est même compliqué et c'est normal que ce soit compliqué. Ça se passe comment?
Disons compliqué, non, mais complexe, oui.
Voilà.
Et c'est-à-dire que quand on arrive en Suisse, le soir où on est arrivé, les gens de l'association et les médecins viennent voir la personne qui est candidate au suicide. Après un examen, une discussion, etc., qui se fait seul à seul avec la personne candidate pour bien s'assurer qu'elle a toute sa tête et que c'est elle qui le désire, rendez-vous est pris pour le lendemain matin. Et le lendemain matin, on a lieu adéquat. Et bien, les gens qui sont là, en l'occurrence moi et mes enfants, nous nous rendons dans ce lieu. Et là, après une ultime discussion, imaginez un peu. La personne est. On donne à la personne une solution de 10 cm cubes à peu près à avaler. Et cette solution l'entraîne dans un décès très calme et très très rapide, l'espace de un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Et sans aucune souffrance, sans rien, les yeux grands ouverts tout au début, et puis ensuite un grand bâillement, et puis ensuite voilà. Enfin, je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça. Pour nous, ça a été cela. Et ensuite, bien sûr, il y a un moment où la police suisse intervient pour s'assurer qu'effectivement ça a bien été un suicide et pas, je suppose, pas un crime ou un assassinat, et également un représentant de la justice suisse. Voilà.
Merci beaucoup Christian, pour ce témoignage intéressant et surtout très complet pour comprendre effectivement comment les choses fonctionnent pour discuter ensemble ce soir de ce sujet. Noël Châtelet est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, vous êtes universitaire, vous avez écrit La dernière leçon et Suite à la dernière leçon qui sont regroupées désormais dans un seul ouvrage Au Seuil. Puis on va rappeler que vous y racontez notamment votre mère qui en 2002 a choisi de partir toute seule pour éviter une fin de vie qu'elle n'aurait pas choisie. Régis Aubry est avec nous également. Bonsoir monsieur Aubry.
Bonsoir.
Vous êtes en duplex depuis France Bleu Besançon. On salue, on remercie nos confrères. Vous êtes président de l'Observatoire National de la Fin de Vie, chef du service des soins palliatifs au CHU de Besançon. Noël Châtelet, quand on entend le témoignage de Christian, il y en aura beaucoup ce soir, je les vois tomber là, les uns après les autres. Est-ce qu'on se dit que on n'a pas été assez loin dans notre réflexion? Parce qu'on y réfléchit en France. Il y a les lois Claeys-Néoletti, elles sont là, elles existent. Est-ce qu'on n'a pas été assez loin? Est-ce qu'on a presque loupé un coche, en fait, en n'allant pas au bout?
Probablement, puisqu'il faut encore aller en Suisse pour pouvoir partir comme nous l'a bellement raconté notre auditeur tout à l'heure. On regrette qu'on ne puisse pas avoir le même intérêt pour les gens qui veulent partir en France. Et ce n'est pas le cas. Alors, on va de loi en loi. À chaque fois, il y a une petite amélioration. Mais on n'a pas franchi l'interdit fondamental qui est de donner volontairement la mort. On n'a pas pu le faire, on n'a pas su le faire encore en France.
Est-ce que vous percevez pourquoi, en fait? Pourquoi on ne sait pas aller jusque-là, nous? Alors, on n'est pas les seuls, par ailleurs, je disais, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg. Il y en a finalement...
Les Pays-Bas. Canada, certains États américains, etc. Donc, beaucoup nous ont devancés dans cette voie. Et c'est d'autant plus triste d'une certaine manière qu'on est quand même le pays dit des droits de l'homme, et il faut bien reconnaître qu'on meurt mal en France, ni dans l'égalité, ni dans la fraternité, ni dans la liberté. Et la devise républicaine est vraiment mise à mal concernant la question de la fin de vie. Voilà, donc bien sûr, on n'est sans doute pas allé assez loin, mais on ne pourra aller loin que si on écoute les citoyens français.
Régis Aubry, vous qui êtes chef d'un service de soins palliatifs, donc votre travail est de soulager les gens chaque jour, lorsque vous entendez un témoignage comme celui de Christian, j'imagine que vous en entendez beaucoup, des familles vous poser malgré tout cette question-là. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'il y a une alternative, c'est quoi la réponse en fait?
D'une part, nous ne disposons pas pratiquement de statistiques sur la réalité des demandes d'euthanasie qui nous semblent tout de même pas si fréquente que ça, mais c'est pas la fréquence qui compte, c'est le sens de ces demandes. Effectivement, qu'une personne atteinte d'une maladie grave, évoluée, en arrive à demander à être morte plutôt que de continuer à vivre, on ne peut pas ne pas nous interpeller. Ça nous semble une évidence. Je pense que il n'y a pas de réponse qui soit bonne à cet état, mais cette question de l'assistance au suicide, qui est à différencier de la question de l'euthanasie, me semble-t-il, est une question complexe qu'il faut savoir examiner calmement, pas de façon polémique. J'avoue aussi que je suis personnellement, avec l'expérience, très impressionné par le fait que plus la médecine progresse au plan technique et scientifique, plus elle génère finalement des situations épouvantables de fin de vie, voire inacceptables ou insensées. Et je me demande si, à vouloir focaliser exclusivement le débat sur la loi, faut-il ou pas dépénaliser, nous n'oublions pas de regarder une autre question qui me semblerait fondamentale à discuter ici, c'est comment faire en sorte que notre médecine redevienne un peu plus humaine et évite de fabriquer des situations inhumaines.
Ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il faut s'arrêter plus tôt? Qu'est-ce que ça veut dire, ce que vous êtes en train de nous expliquer?
Ça veut dire qu'il faut que nous nous posions, nous, les médecins, nous, les soignants, des questions avant d'agir. Ça n'est pas parce que l'on sait prolonger une vie qu'il faut prolonger une vie. Ça n'est pas parce qu'on sait appliquer une technique qu'il faut appliquer cette technique. C'est, à mon avis, nous souffrons en France, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas débattre sur la question de l'assistance au suicide, mais nous souffrons en France d'une sous ou d'une non-valorisation de la réflexion éthique. Et je pense qu'au moment où se déroulent les états généraux de la bioéthique. Je suis membre du Comité consultatif national d'éthique et je pense vraiment qu'il faut que nous insistions sur le fait que plus la médecine progresse, plus il faut que nous enseignions l'apprentissage de la réflexion éthique, plus il faut que nous apprenions à prendre le temps de discuter avec des personnes malades, avec des familles. Mais tout ceci aujourd'hui n'est que très peu enseigné et n'est surtout pas valorisé dans l'organisation de notre système de santé. Je pense qu'il y a un danger, je le répète, à ne focaliser le débat que sur la question de la loi.
Noël Chaclet, je vous voyais approuver ce que disait Régis Aubry à l'instant.
Oui, je l'approuvais parce que le professeur Sicard avait insisté sur cet aspect quand il a rendu son rapport sur le problème de la formation des médecins. Effectivement, dans beaucoup de pays, et ceux qu'on a cités qui pratiquent l'euthanasie et le suicide assisté, il y a un enseignement moral, éthique, qui est consacré effectivement à cette question de la préparation psychique et pas seulement technique des médecins. Mais en parlant comme ça, au fond, on a l'air de dire que tout se passe d'un point de vue purement médical. Et je me demande, moi aussi je pense qu'on est allé très loin dans la surmédicalisation.
Mais est-ce que ça veut dire, pardonnez-moi de vous interrompre, que certains ont envie d'aller vers l'euthanasie, ceux qui le disent en tout cas en ce moment, parce qu'ils ont peur justement qu'on aille trop loin avec eux, en fait. Est-ce que c'est ça aussi l'une des raisons pour lesquelles on tient absolument à remettre ce débat sur le tapis, la preuve, puisque les pétitions s'additionnent ?
Oui, bien sûr. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais parler de la surdimensionnalisation du médical aussi dans la question de la fin de vie. Est-ce que la fin de vie appartient aux médecins ? Là, on parle de leur formation, etc. Bien. Mais est-ce que le médecin pourrait pas être avec d'autres, avec un simple partenaire de la fin de vie, comme ça l'est en Suisse, en Belgique, etc. Alors, la peur, évidemment, de mal mourir est essentielle dans tout ça. Et d'ailleurs, je parcours aussi beaucoup la France depuis 15 ans maintenant, depuis le fameux geste de ma mère qui a mis fin à ses jours et qui m'a tenu la main pour m'apprendre la mort, en quelque sorte. Je reçois beaucoup de courriers auxquels je réponds, etc. Et je me rends compte que finalement, les Français n'ont pas plus peur de mourir que n'importe quel
autre citoyen du monde. Mais d'ailleurs, c'est frappant, beaucoup de gens qui vous disent, dites-moi comment elle a fait. C'est très touchant, ces messages-là, en fait. Comment elle a fait? Comment ça s'est passé, en fait?
Elle a préparé ses enfants à cette idée, déjà. Et nous étions d'accord avec elle, puisqu'elle était depuis des années, des dizaines d'années, cofondatrice d'une association qui s'appelle l'Association au droit pour mourir dans la dignité, avec mon père. Et il était entendu que le jour où elle déciderait de partir, eh bien, elle prendrait cette décision clairement, sereinement, etc. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle nous a donc dit la date de son départ. Et puis, elle nous a laissé quand même 3 mois... pour nous préparer mentalement et psychiquement à ce départ et nous apprendre la mort en quelque sorte. Et ce travail d'apprentissage de la mort, nous avons tous à le faire. Et finalement, pendant ces 3 mois, moi j'ai débattu avec ma propre conscience et avec ma mère. Je suis passée par toutes les phases, c'est-à-dire je veux pas, mais oui, elle a raison, mais qui, mais non, mais c'est un geste d'orgueil. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça, etc. Et ce débat en conscience avec soi-même, il faut aussi le doubler d'un débat citoyen. Et les Français n'ont pas peur de mourir, ils ont peur de mal mourir. Et on le sait, on meurt mal en France.
Bonsoir Thomas. Thomas, on vous écoute.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute Thomas.
Écoutez, moi je rejoins un peu le témoignage de Christian de tout à l'heure. Ma mère était résidente en Suisse à Genève. Elle est décédée il y a 5 ans. Elle est décédée dans mes bras, bénéficiant des magnifiques services qu'offre cette association qui s'appelle Exit et qui permet aux gens de partir dans la dignité. Mon témoignage porte sur deux choses. Enfin, porter sur une chose, c'est qu'est-ce qui se passe après dans ce que les gens appellent le.
Pardon, Thomas, on vous a perdu. On vous a intégralement perdu. J'espère qu'on arrivera à vous retrouver juste dans un instant. Régis Aubry, puisque en attendant que Thomas puisse revenir, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait faire une vraie différence entre l'assistance au suicide et l'euthanasie. Est-ce que vous pouvez marquer pour nous cette différence ?
Oui, je veux bien essayer, même si c'est un peu compliqué. Mais en écho à ce que disait Noël Châtelet tout à l'heure, est-ce que la fin de vie, disait-elle, appartient au médecin ? Et je corrobore le fait que la fin de vie ne devrait pas appartenir à la médecine, en tout cas. Mais en même temps, est-ce que l'euthanasie dont on parle pourrait être conçue comme un acte médical ? C'est une autre question qui doit être posée. Alors, de quoi parle-t-on ? Et moi, je vais distinguer l'assistance au suicide, d'une part, et l'euthanasie. Mm-hmm. La différence entre les deux, me semble-t-il, est importante. C'est que dans un cas, l'assistance au suicide, c'est la personne elle-même qui, comme son nom l'indique, prend la décision de se suicider. C'était le cas de la maman de Noël Châtelet, mm-hmm. me semble-t-il, en absorbant des médicaments qui sont délivrés à cet effet. C'est en ce sens que l'on parle d'assistance mm-hmm. au suicide. L'euthanasie, c'est autre chose. Ça mobilise un tiers, alors qui peut être médecin, hein, mais c'est quelqu'un qui injecte ou administre un produit létal dans le but de faire mourir quelqu'un qui le demande, bien entendu. Hein. Il ne s'agit mm-hmm. pas d'un homicide, enfin en tout cas de donner la mort à quelqu'un qui ne le donnerait pas. Mais vous voyez que cette mobilisation d'un tiers, et en l'occurrence d'un médecin, fait la différence. Dans quelle mesure pouvons-nous affirmer que quelqu'un qui demande la mort, mais qui demande qu'on lui administre un produit, souhaite réellement mourir ? Dans quelle mesure, à contrario, une personne qui se donne elle-même la mort le fait pour elle-même, c'est une autre affaire. Autant dire que, de mon point de vue, et je connais mieux l'expérience de l'État d'Oregon, par exemple, mm-hmm. aux États-Unis, où finalement, le rôle du médecin se borne à confirmer que la personne est bien dans une situation de fin de vie, dont l'espérance de vie lui semble limitée à moins de 6 mois. C'est intéressant, cette expérience. Depuis 1982, je crois que cet État a dépénalisé l'assistance au suicide. Il y a eu assez peu, finalement, de suicide dans le cadre de l'assistance au suicide. À peu près un tiers des personnes qui pouvaient bénéficier, si on peut dire les choses comme ça, de ce produit, mm-hmm. qu'ils vont chercher dans une officine, sont allés le chercher. Et à peu près un tiers de ce tiers l'ont absorbé. Mm-hmm. Mais la grande majorité de la population a estimé et estime encore que c'est très rassurant de savoir que l'on peut avoir accès à cela. Mm-hmm. C'est assez différent, me semble-t-il, de l'euthanasie qui mobilise un tiers dont on peut se demander quelle est son indépendance dans cette affaire. Je ne sais pas si mon propos est clair,
mais
cette
absolument.
Nuance est, à mon avis, essentielle à apporter au débat. Souvent, on confond tout cela. Et de mon point de vue, ce sont deux débats différents. J'ai eu l'occasion et l'honneur de discuter il y a quelques années avec Robert Badinter sur cette question de l'assistance au suicide, qui précisait d'ailleurs que l'assistance au suicide n'est pas pénalisée en France. C'est la publicité, d'une part, ou la non-assistance à personne en danger qui est poursuivie en France. Et à mon avis, il y a donc à réfléchir sur cet aspect. C'est une réflexion de nature politique. Il m'appartient pas de donner un avis personnel autour de tout cela. Je pense que c'est un choix politique. D'ailleurs, je vous signale que ceci fait partie des discussions en cours dans le cadre des états généraux de la bioéthique. Et c'est différent que de demander à des acteurs de santé, des médecins, des infirmières, d'injecter un produit létal. Ceci peut être de nature à heurter la fonction soignante et le sens même du soin.
Noël Châtelet, ce que je comprends, moi, c'est que dans l'euthanasie, il y a l'idée qu'on est dans la phase terminale de sa maladie. Dans le suicide assisté, pas tout à fait encore.
Est-ce que cette nuance aussi dans la phase terminale ?
Alors, on peut l'être, mais on n'est pas obligé de l'être. L'expérience dont on parlait à l'instant, Régis Aubry, dans l'Oregon, par exemple, 6 mois avant, 4 mois avant, 3 mois avant, à la personne de choisir, en fait.
Oui, mais on insiste beaucoup sur l'idée qu'effectivement, de savoir qu'on va pouvoir partir... Mm-hmm. Ne fait pas mourir. C'est-à-dire, donner le droit de mourir ne fait pas mourir. Paradoxalement, donner le droit de mourir apaise ceux qui ont peur un jour ou l'autre de n'être pas aidés à partir. Mm-hmm. Et c'est pour ça que c'est très étrange, ce paradoxe. Il faut insister sur ce paradoxe. Et je le répète à chaque fois que j'ai mm-hmm. l'occasion de le faire. Et puis, on parlait de l'avortement tout à l'heure. C'est pas un hasard. On a souvent fait un parallèle entre ce qui s'est passé dans les années 70, c'est-à-dire le droit de choisir d'avoir un enfant ou non, le droit à l'avortement, et puis les demandes actuelles, soit d'euthanasie, soit de suicide assisté. On est dans le même cadre de questions à la fois personnelles et éthiques, et aussi dans la même difficulté pour le médecin de choisir pour les autres. C'est-à-dire que je pense qu'il faut tenir compte du fait que on peut très bien admettre que les médecins n'ont pas été formés pour donner la mort et qu'ils résistent à cette décision, on le comprend très très bien. Mais il y a des médecins qui sont prêts à aider certains patients à partir. Comme il y avait des médecins qui étaient prêts à aider certaines femmes à pratiquer, à avorter. Donc, je pense qu'il faut que ce soit très ouvert et qu'on donne aux médecins qui le veulent la possibilité d'aider qui ils veulent, et puis à ceux pour qui c'est un vrai problème moral de ne pas le faire.
Thomas, on vous a perdu tout à l'heure, mais on vous a retrouvé. Ravi de vous retrouver. Allez-y, finissez votre témoignage, Thomas. Vous parliez de votre mère.
Oui, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner ma mère dans un départ assisté en Suisse grâce à la magnifique association Exit qui propose des services tout à fait extraordinaires qui permettent de vivre à domicile cette expérience intime et en famille de façon très très sereine. Et à cette expérience, j'aimerais opposer celle du décès de mon père, mort dans un acharnement thérapeutique hospitalier, et à opposer ces deux expériences, je me rends compte que l'expérience de deuil que nous faisons après est tellement plus sereine dans l'accompagnement de celui qu'on aime, de pouvoir le tenir dans ses bras et de le voir partir dans cette dernière grandeur, choix, indépendance, liberté, finalement.
Thomas, on a une question qui vient de Sandrine. Il y a beaucoup de gens qui posent cette question, donc je vais vous la demander à vous. C'est quoi le coût d'un suicide assisté en Suisse, comme ça a été le cas pour votre mère ou comme l'auditeur précédent qui s'appelait Christian ?
Très sincèrement, je crois qu'une fois que vous adhérez à l'association, les coûts sont pris en charge par l'association. Il me semble que c'est ça. Hein. J'en ai des souvenirs assez lointains. Je n'étais pas, en plus, maître des finances là.
Noël Châtelet, merci beaucoup pour ce témoignage, Thomas, là-dessus, parce que parlons de choses concrètes, Noël Châtelet. Le coup.
Non,
j'ai
cru
lire que Anne-Bert avait payé 8 000 euros.
De sommes relativement importantes, comme 7 000 ou 8 000 euros. Mais on revient toujours à la même question. Faut-il s'exiler pour pouvoir mourir ?
C'est un argument
avec ses proches, parce qu'au fond, moi, mon grand regret, c'est de ne pas avoir été près de ma mère au moment où elle a accompli son geste. C'est que ses enfants, nous n'étions pas là. Nous n'avions pas le droit d'être là. Alors que nous étions préparés à sa mort depuis le début. Elle est morte seule, et d'une certaine manière, c'est pour ça qu'elle s'est suicidée. Le suicide implique de toute façon quelque chose de violent et quelque chose de fondamentalement solitaire. Voilà. De violent pour ceux qui restent, de violent pour celui ou celle qui part. Et dans le cas de ma mère, il n'y a pas eu de violence, puisqu'elle est partie sereinement. Mais la violence, c'était pour nous de n'être pas là. Et c'est ça qu'il faut obtenir en France, c'est-à-dire, comme en Belgique, un espace où, avec sans doute l'aide d'un médecin, mais qui serait un partenaire parmi d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, on puisse mourir entouré des siens.
Régis Aubry, je vous ai pas oublié, mais je voudrais qu'on écoute Daniel avant, qui est médecin en soins palliatifs, et peut-être que vous pourrez nous aider à répondre à sa question. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y Daniel.
Merci France Inter. Je voulais simplement vous dire que je suis médecin hospitalier en soins palliatifs, soins de suite et de suite de long séjour. Mon analyse concernant cet instant difficile qui est la fin de vie, le problème n'est pas le patient malade mourant, mais la souffrance des accompagnants, en particulier des familles proches, qui trouvent que l'agonie, alors l'agonie, c'est une notion, c'est une notion qu'on voit, mais que éventuellement nous on sait maîtriser, hein, par les médications absolument extraordinaires que nous avons, que cette agonie devrait être stoppée. Et la plupart des familles trouvent que les soins palliatifs durent trop longtemps et qu'il faudrait écourter ces soins palliatifs par une euthanasie active. Alors, moi je suis un adepte de la loi Leonetti, absolument, et j'aimerais connaître le ressenti et l'avis de vos invités, parce que je viens d'entendre que un de vos invités n'a pas assisté au décès de sa mère, mais moi je peux vous dire, je peux vous certifier qu'on a un temps précis pour s'occuper des familles, parce que c'est les familles qui souffrent. Le patient qui est sous sédation profonde, lui, il ne souffre plus. Mmh.
Merci beaucoup, Daniel, pour ce témoignage. C'est important ce que vous dites, Régis Aubry. Effectivement, il y a le patient, il y a les familles autour qui, elles, sont peut-être plus enclines à réclamer ce que Daniel appelait l'euthanasie active, en fait. Activer cette agonie, activer-la pour nous autant que pour lui, en fait.
Oui, mais quoi qu'il en soit, que ce soit en Belgique, en France, en Oregon, je pense qu'il ne suffit pas que quelqu'un demande pour que on pratique. Hein, c'est, il faut quand même garder raison. En général, lorsqu'une personne, un proche, demande à ce qu'on écourte quelque chose, ceci n'a pas grand-chose à voir avec ce dont nous parlons. Mmh. Heureusement, pas plus en Belgique qu'en Hollande que nulle part, on accède au fait de donner la mort à la demande d'un tiers. Entendons bien ce qui est... Bien sûr que les familles souffrent de tout cela, mais on imagine mal un pays dépénaliser le fait de donner la mort à quelqu'un qui ne la demanderait pas. Ceci n'a rien à voir avec ce dont nous sommes en train de parler. La question de fond, vraiment, c'est celle de la demande de la personne. J'entends bien ce que dit notre auditeur et ce collègue. Effectivement, il y a une très grande souffrance familiale. Il y a même en fin de vie des familles qui n'en peuvent plus et qui, à l'issue d'un accompagnement extrêmement long, épuisant, peuvent avoir un désir de mort pour autrui, si je peux dire les choses comme cela. Mais je ne crois pas qu'il soit dans les tiroirs de quiconque, y compris parmi les députés qui ont signé cet article la semaine dernière, un souhait de dépénaliser le fait d'administrer un produit létal à quelqu'un qui ne le demanderait pas et simplement la demande de sa famille.
Mais peut-être que ça parle aussi, ce que disait Daniel, ce dont ça parle aussi, c'est de l'incompréhension, du manque de connaissance aussi de la famille de ce qui est en train de se passer en ce moment avec le malade, non ? Ça parle de ça aussi,
oui.
Ça parle de manque d'information, oui. Ça parle de peur, ça parle de toutes ces choses-là.
Mais vous savez, je crois qu'il en est des angoisses autour de la mort. Il sera toujours quelque chose. Il sera toujours une occasion d'avoir beaucoup d'angoisse autour de tout cela, parce que tout simplement, nous ne pouvons pas avoir l'expérience de cet épisode de la vie qu'est la mort. C'est un des rares mots, un des rares verbes qu'on ne peut pas conjuguer au passé composé, le verbe mourir. Donc personne ne pouvant parler de ce qu'il a vécu, nous le craignons. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une angoisse, c'est-à-dire la peur d'un événement qui est susceptible d'arriver à un certain moment, qui nous fait et qui fait demander parfois aux uns et aux autres que l'on supprime ce moment. Il y a quelque chose d'une volonté de tuer la mort, parfois, qui est une réalité. Et puis, je l'affirme, et je pense que ce collègue qui a appelé serait d'accord, je pense vraiment, je reprends un peu ce que je vous disais tout à l'heure, nous créons aujourd'hui dans le champ de notre société la possibilité de vivre de plus en plus longtemps avec des maladies de plus en plus graves qui posent la question du sens de la vie et qui épuisent les proches, puisque nous n'avons pas une politique d'accompagnement sur le lieu de vie qui est suffisante et qui peuvent conduire effectivement à l'émergence d'un sentiment qui est absolument impressionnant d'indignité des personnes en fin de vie, puis d'un sentiment d'épuisement de ceux qui leur sont proches. C'est ainsi que, en particulier dans la population âgée, nous avons de plus en plus, et je crois qu'il y a lieu de s'en inquiéter, des personnes âgées qui préféreraient mourir que de continuer à vivre comme on leur propose de vivre, en particulier là où elles n'ont pas souhaité vivre. Il y a donc une réflexion de fond, c'est pour ça que j'insiste sur c'est important de débattre sur la loi favorable ou pas à l'euthanasie, mais il serait plus encore important encore de se poser la question de l'accompagnement. Quelle place notre société fait-elle pour les nouvelles formes de vie prolongée et de fin de vie prolongée que la médecine génère Voilà une question, à mon avis, de fond. Si nous ne nous dotons pas des moyens d'accompagner les gens les plus vulnérables, et que nous en arriverons à penser que, finalement, la mort donnée est peut-être la réponse, c'est quelque chose qui est de nature à devoir nous inquiéter.
Je voudrais soumettre à tous les deux ce mail sur franceinter.fr qui nous vient de Magali. J'aimerais que soit évoquée, dit-elle, la maladie d'Alzheimer dans ce débat sur l'euthanasie. Ma mère est atteinte de cette maladie depuis plus de 10 ans et elle n'a que 70 ans. Ça fait 8 ans qu'elle est en maison de retraite où nous la voyons, mes sœurs et mon frère, se détériorer. Je me souviens au début de la maladie où elle nous disait qu'elle voulait partir. Chaque visite est une souffrance, nous explique Magali, visite qui d'ailleurs s'espace dans le temps et les déchirements sont très douloureux. Est-ce qu'il serait possible, si une personne laisse des instructions dans ce sens, d'aider les malades d'Alzheimer dans un suicide assisté ? Noël Châtelet, qu'est-ce qu'on peut penser de ça?
On aborde la question des directives anticipées.
Alors, certes.
Il faut vraiment, alors là, pour le coup, la loi Leonetti, Claes Leonetti était très ferme là-dessus. Il faut vraiment que chacun...
Il y a eu un téléphone sonne sur ce sujet et voilà, en effet, effectivement, écrire ces directives anticipées.
Voilà, écrire ces directives anticipées pour que on n'ait pas le sentiment que ce sont les autres qui décident pour la personne qui veut partir.
Mais là, en l'occurrence...
Des directives anticipées réitérées.
Mais alors là, en l'occurrence, une maladie d'Alzheimer, donc effectivement une détérioration qui est très progressive et à un moment où on ne maîtrise plus les choses et en même temps, on peut vivre effectivement 10 ans, 20 ans avec la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, Régis Aubry?
Mais là encore, vous m'excusez, mais je ne veux pas prendre le contre-pied systématique de ce qui est dit, mais je pense que cette auditrice évoque une question extrêmement complexe qui est liée au progrès dans le domaine de la santé. De plus en plus de personnes peuvent vivre de plus en plus longtemps, de plus en plus âgées. Il y a de plus en plus de personnes qui présentent des troubles cognitifs sévères. Que pouvons-nous dire de ce qu'elles ressentent, ces personnes? Que pouvons-nous dire de ce qu'elles éprouvent? Qui peut dire qu'elles sont malheureuses? Qui peut dire qu'elles sont heureuses? En réalité, nous sommes convoqués par des questions de nature éthique extrêmement complexes autour de ces situations. Et j'espère, je répète ce que je disais tout à l'heure, que jamais, au grand jamais, aucun législateur de notre pays ou d'autres pays ne viendra décider pour autrui ce que la qualité de vie d'autrui peut être. J'espère que jamais nous ne donnerons la mort à des personnes qui ne le demandent pas. Par contre, et cette dame évoque la souffrance des familles, l'incompréhension, le non-sens que peut prendre pour une famille la perte d'une personne qu'on ne reconnaît plus, qui ne se reconnaît plus, la souffrance que cela génère chez les proches, voilà, à mon avis, un vrai champ d'accompagnement auquel je faisais référence tout à l'heure. Et puis, je reprends ce que disait Noël Châtelet tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur les directives anticipées, mais je voudrais vraiment que, dans le cadre de la loi présente, nous développions le fait que très tôt, lorsque quelqu'un perd sa capacité à décider pour lui-même, nous essayons de rassembler tout ce qui pourrait être utile pour pouvoir décider pour lui, en étant le plus proche possible de lui. Et ainsi, anticiper le fait, peut-être, de ne pas traiter certaines complications qui arrivent chez certaines personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, de ne pas forcément traiter une complication digestive, une complication pulmonaire. Voyez, tout ceci est un travail qui, excusez-moi d'insister, nécessite un changement de paradigme complet dans l'exercice de la médecine, dans la formation des acteurs de la santé.
Régis Aubry, vous avez raison d'insister bien sûr sur ces choses-là.
Moi, je partage les mêmes espérances. J'espère qu'on ne fera jamais mourir quelqu'un qui ne veut pas mourir. Mais j'espère qu'on pourra donner la possibilité à ceux qui veulent partir, comme voulait partir ma mère, sereinement, debout, si je puis dire, entre guillemets, la possibilité de le faire. Donc, il s'agit d'humanité dans les deux sens, dans les deux circonstances.
On avance, non? Est-ce que vous ne croyez pas qu'on avance quand même sur ce débat-là? Faut-il le remettre? Elle a 2 ans, la loi Claes Leonetti, elle est toute jeune. Et à nouveau, on voit revenir des choses sur la table aujourd'hui.
C'est bien la preuve que cette loi n'a pas été convaincante. Elle n'a satisfait ni les uns ni les autres. Elle est restée au milieu du gué, d'une certaine façon. Et je pense que si elle n'a pas été visible, c'est qu'elle n'était pas parfaite. Elle n'était pas. Il n'y a aucune loi parfaite, mais qu'il y avait des lacunes. Et que c'est sur ces lacunes qu'il faut débattre aussi. Réfléchir pourquoi elle n'a pas convaincu cette loi et pourquoi les citoyens français demandent autre chose que la loi Claeys-Leonetti. D'ailleurs, M. Claeys, à l'époque, disait lui-même qu'il aurait voulu aller plus loin. Donc, c'est qu'on n'est pas allé assez loin, comme vous le disiez au début de l'émission.
Virginie, vous êtes infirmière en soins palliatifs, c'est vous qu'on écoute, vous êtes la dernière. Allez-y, soyez la bienvenue.
Oui, merci, bonsoir. Je voulais intervenir parce que, à mon sens, on ne parle pas assez des soins palliatifs. Je trouve que cette loi, comme vous le disiez, est encore très jeune et qu'il faudrait qu'on se donne les moyens de pouvoir la faire appliquer. Les soins palliatifs sont, alors à mon sens, mais je regarde ça de mon prisme à moi, une forme d'alternative quand même à l'euthanasie. Je redis encore une fois de mon expérience, les formulations d'euthanasie que j'ai pu entendre se sont vues modifier, évoluer, parce que on avait développé une qualité d'écoute sur ce que venaient manifester ces patients qu'ils exprimaient, sur toutes les pertes qu'ils envisageaient et qui leur étaient insupportables de vivre, sur ces angoisses de perte d'autonomie, de laisser celui qui va rester en vie. Et voilà, je trouve que les soins palliatifs, il faut aussi leur donner les moyens d'exister, les moyens de se propager. Ils n'existent pas qu'en unité de soins palliatifs, ils existent partout ailleurs. Il faut du coup nous laisser œuvrer, travailler, former, informer et développer cette écoute fine, attentive, qui prend du temps effectivement, qui vient questionner, à mon sens, sur le sens de la vie de chacun, de nous, de vous, sur ce qu'on met derrière la mort, derrière la fin de notre vie, derrière la perte, les deuils. Voilà.
Merci beaucoup Virginie et Noël Châtelet. J'ai envie de dire, l'un n'empêche pas l'autre.
Mais c'est ce que j'allais dire, vous m'avez coupé.
Pardon.
Mais bien sûr, c'est tout ça en même temps qu'il faut faire. Tout ça en même temps. Les soins palliatifs sont tout à fait insuffisants en France et tous les médecins, tout le système médical est prêt à le confirmer. Mais il n'empêche que plus les droits seront déployés, mieux la démocratie fonctionnera. Et on n'en est pas encore là, malheureusement.
Peut-être qu'il faut expliquer aussi que dans les pays qui sont plus permissifs que nous, je ne sais pas si le mot permissif d'ailleurs est le bon terme, et c'est ce que racontaient d'ailleurs nos auditeurs, à chaque instant, on peut changer d'avis, évidemment, à chaque étape, en fait.
Tout à fait.
Régis Aubry, je posais la question tout à l'heure à Noël Châtelet sur l'aboutissement de cette loi. Est-ce que vous aussi, de votre prisme à vous, vous avez le sentiment qu'il faudra de toute façon là, et profitons-en puisque les lois bioéthiques sont là, remettre cette question sur le tapis, ce qui n'était pas forcément prévu d'emblée dans ce passage-là des lois bioéthiques.
Je suis partagé pour vous répondre. Je pense qu'il est toujours très utile de débattre sur des questions qui n'auront jamais de réponse absolutiste, comme les questions que nous nous posons. Je suis juste surpris qu'une loi aussi récente que celle-ci, puisqu'elle date de 2 ans maintenant, de mars 2016, et fait si peu l'objet de travaux de recherche. Qu'est-ce que produit le fait d'endormir quelqu'un profondément jusqu'à son décès? Quelle est la réalité de la souffrance des personnes en fin de vie? Qu'est-ce que signifie une demande d'accélérer la fin de sa vie? Nous manquons beaucoup, beaucoup, et j'en discutais récemment avec le président du Comité consultatif national d'éthique, nous manquons en France d'un champ de recherche sur ces questions. On dirait qu'on voudrait que la loi vienne se substituer à l'exigence de la recherche sur des questions comme celle-ci, qui n'est pas que de la recherche médicale, c'est de la recherche en sciences humaines, par exemple. Et je ne sais pas quelle est cette propension à vouloir faire aller toujours plus vite alors que nous ne prenons pas le temps d'explorer les conséquences de la loi que nous avons faite. Ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas bien qu'à un moment ou un autre la loi évolue, ça veut dire surtout qu'il faut que nous sachions utiliser la recherche pour ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire éclairer le débat public.
Et merci beaucoup. Discutons encore et rediscutons-en, y compris sur France Inter. Régis Aubry, merci beaucoup. Noël Châtelet aussi, merci à tous.
Merci à vous
pour vos très nombreuses questions. Portez-vous bien.